Bonsoir, on prend l'antenne un tout petit peu avant, juste pour rendre un hommage à une disparue aujourd'hui.
C'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance, ou Dieu qui nous fout droit. Et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que l'on soit, les femmes tout avec danse, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi, et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance, et qui ne la voit pas. Garde la foi, que le désert avance, et l'eau n'arrive pas. Sans cette délivrance, nous n'avons plus le choix. Dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence, et que c'est sur nos tombes que le désert avance.
Bonsoir. Ah tiens, ça repart tête. Bonsoir et vous êtes bienvenus, vous êtes bien sur Radio Canu, 102.12, radiocanu.org. C'est l'émission La Causerie qui commence. Alors on a rendu un petit hommage à France Gall juste avant l'émission en diffusant... J'ai perdu le titre de la chanson, c'est pas terrible. Hop là, je vous le retrouve. Ça siffle, hein ?
Un peu.
Ah, je suis désolé, c'est moi la technique, c'est pour ça. C'est la chanson d'Azima, pardon, voilà, j'avais perdu le titre. Voilà, petit hommage à une grande de la chanson française, qui bien sûr, comme elle était une femme, on lui rend un hommage en rappelant que c'est des hommes qui avaient écrit pour elle, ce qu'on ne fait pas pour Johnny Hallyday. Voilà, ça s'est placé.
Oui, mais ceci dit, les interprétations étaient quand même de qualité.
Bah tout à fait. Voilà. Alors ce soir, donc autour de la table, nous avons Jonathan.
Eh ouais.
Jean-Yves.
Bonsoir. Et Fab qui est à la technique et tout ça.
Oui, et alors ça grésille, ça... Ça siffle, je ne sais pas pourquoi.
Ça va mieux, là.
Je vais tout trouver à un moment donné. Voilà. Donc, c'est une causerie. Donc, bah, pour nous joindre, lacausericanu@gmail.com. Lacausericanu@gmail.com. Et si vous voulez nous réécouter, c'est sur les blogs de Radio Canu à.
Blogs/. Non. Un jour, je l'apprendrai par cœur, c'est promis.
Alors, Jean-Yves.
C'est blogs.radiocanu.org/lacausserie.
On y était presque.
Bah oui, on n'était pas loin.
Voilà. Bah ouais. Je vais remplacer les points par des slash quand c'est moi qui le dis et tout passe.
Eh ben, première émission de l'année oblige, une envie quand même de donner des sortes de vœux, on va dire ça. Et c'est Jean-Yves qui s'y colle. Bah, vous savez ce que ça va donner avec Jean-Yves.
C'est aimable comme introduction. Tu pourrais un petit peu saliver avant. Allez, on y va. Ah ah, c'est le jour de l'an. La voix claire de l'enfant et la voix cassée du vieillard entonnent la même ballade. La ballade des vœux et souhaits. L'ouvrier à son patron, le débiteur à son créancier, le locataire à son propriétaire disent la ritournelle de la bonne et heureuse année. Le pauvre et la pauvresse s'en vont à la rue chanter la complainte de la longue vie. Ah ah, c'est le jour de l'an. Il faut que l'on rie. Il faut que l'on se réjouisse. Que toutes les figures prennent un air de fête, que toutes les lèvres laissent échapper les meilleurs souhaits, que sur toutes les faces se dessine le rictus de la joie. C'est le jour du mensonge officiel, de l'hypocrisie sociale et de la charité phariséenne. C'est le jour du vernis et du convenu. Les faces s'illuminent et les maisons s'éclairent. Et l'estomac est noir et la maison est vide. Tout est apparent, tout est façade, tout est leurre. Tout est tromperie. La main qui vous accueille est un rictus ou une grimace. Le souhait qui vous reçoit est un blasphème ou une moquerie. Dans la curée âpre des appétits, c'est l'armistice, c'est la trêve. Dans l'âpre curée des batailles, c'est le jour de l'an. On entend l'écho qui répète la voix du canon et qui redit le sifflet de l'usine. La mitrailleuse fume encore et encore. La chaudière laisse échapper la vapeur. L'ambulance regorge de blessés et l'hôpital refuse des malades. L'obus a ouvert ce ventre et la machine a coupé ce bras. Les crimes des mères, les pleurs des enfants font retentir à nos oreilles l'affreuse mélodie de la douleur, toujours la même. Le drapeau blanc flotte, c'est l'armistice, c'est la trêve. Pour une heure ou pour un jour, les mains se tendent, les faces se sourient, les lèvres bégaient des mots d'amitié. Ricanement d'hypocrisie et de mensonges. Bonne vie à toi, propriétaire, qui me jettera sur le pavé de la ville sans t'occuper du froid ou de l'averse. Bonne vie à toi, patron, qui me diminua ces jours derniers parce que faiblissait mon corps après la dure maladie que je contractais à ton service. Bonne vie à tous, boulangers, épiciers, débitants qui enserriez ma misère de vos péages honteux et qui teniez commerce de chacun de mes besoins, de chacun de mes désirs. Et bonne vie et bonne santé à tous, mâles et femelles lâchés à travers la civilisation. Bonne année à toi, l'ouvrier honnête, à toi, macro régulier, à toi, catalogué du mariage. À toi, inscrit au livre de police, à vous tous, dont chacun des gestes, chacun des pas est un geste et un pas contre ma liberté, contre mon individualité. Ha ha ! Bonne vie et bonne santé. Vous voulez des vœux ? En voilà ! Que crève le propriétaire qui détient la place où j'étends mes membres et qui me vend l'air que je respire. Que crève le patron ? qui, de longues heures, fait passer la charrue de ses exigences sur le champ de mon corps. De mon corps. Que crèvent ces loups âpres à la curée qui prélèvent la dîme sur mon coucher, mon repos, mes besoins, trompant mon esprit et empoisonnant mon corps. Que crèvent les catalogués de tout sexe, avec qui le désir, les désirs humains ne se satisfont que contre promesses, fidélité, argent ou platitude. Que crève l'officier qui commande le meurtre et le soldat qui lui obéit. Que crève le député qui fait la loi et l'électeur qui fait le député. Que crève le riche qui s'accapare une si large part du butin social. Mais que crève surtout l'imbécile qui prépare sa pâtée. Ah ah, c'est le jour de l'an. Regardez autour de vous. Vous vous sentez plus vivant que jamais le mensonge social. Le plus simple d'entre vous devine partout l'hypocrisie gluante des rapports sociaux. Le faux apparaît à tout pas. Ce jour-là, c'est la répétition de tous les autres jours de l'an. La vie actuelle n'est faite que de mensonges et de leurres. Les hommes sont en perpétuelle bataille. Les pauvres se baladent du sourire de la concierge au rictus du bistrot et les riches de l'obséquiosité du laquais aux flatteries de la courtisane. Face glabre et masque de joie. La caresse de la putain a comme équivalent le sourire de la femme mariée. Et la défense du maquereau est pareille à la protection de l'époux. Trucage et intérêt. Pour que nous puissions chanter la vie, un jour, en toute vérité, il faut, disons-le bien hautement, laisser le convenu et faire un âpre souhait. Que crève le vieux monde avec son hypocrisie, sa morale, ses préjugés qui empoisonnent l'air et empêchent de respirer. Que les hommes décident tout à coup de dire ce qu'ils pensent. Faisons un jour de l'an où l'on ne se fera pas de vœux et de souhaits mensongers, mais où, au contraire, on videra sa pensée à la face de tous. Ce jour-là, les hommes comprendront qu'il n'est véritablement pas possible de vivre dans une pareille atmosphère de lutte et d'antagonisme. Ils chercheront à vivre d'autres façons. Ils voudront connaître les idées, les choses et les hommes qui les empêchent à venir à plus de bonheur. La propriété, la patrie, les dieux, l'honneur courront le risque d'être jetés à l'égout avec ceux qui vivent de ces puanteurs. Et sera universel ce souhait qui semble si méchant et qui est pourtant rempli de douceur, que crève le vieux monde. Voilà, c'était mes souhaits. Alors, je vais être honnête quand même avec toi, auditeur, auditrice, ce n'est pas moi qui ai écrit cette belle déclaration. Elle est l'œuvre de Albert Libertad qui a vécu jusqu'en 1908. Et ce texte-là date de décembre 1906, c'était évidemment quelques jours avant la nouvelle année, et c'était dans le journal L'Anarchie. Et en fait, quand je l'ai vu, alors évidemment c'est marqué par son temps sur certaines choses, etc., mais j'ai envie de dire, la forme a peut-être changé, mais encore une fois, le fond, je crois qu'il est quand même terriblement...
Vrai.
Ben ouais, en fait...
Vas-y. C'est un peu dingue parce qu'on a beau se souhaiter bonne et heureuse nouvelle année, bonne résolution. Depuis 1906, il n'y a pas grand-chose qui a changé de 1er janvier en 1er janvier. Bon, y a eu de l'évolution, mais globalement, hein,
c'est,
on en reste là.
C'est vraiment ça, ouais.
Ouais, moi, je voulais juste rappeler qu'Albert Libertad a été assassiné, qu'il a été éliminé par l'État.
Par l'État, tout à fait.
À coup d'anthrax, pour ceux qui ne le savent pas, en 1908, voilà. Je voulais le rappeler. Je voulais aussi rappeler que l'émission que vous écoutez s'appelle La Causerie, parce que c'est un peu ce monsieur qui a inventé un truc qui s'appelle les causeries populaires.
Oui.
Voilà. Et qu'il était un des initiateurs des causeries populaires et que, voilà. C'est aussi pour ça que l'émission s'appelle comme ça, parce que c'est l'idée qu'ensemble, on peut construire un nouveau monde.
Mais qu'effectivement, il faut se réapproprier tous les sujets de tout le temps et que c'est l'affaire de tous et toutes. Et que, comme il le dit, je crois que la propriété, la patrie, les dieux, l'armée, tout ça, c'est toujours pas fini, en fait. Donc, on continue, 2018 comme 2017 et sûrement encore comme les années à venir.
Jusqu'à ce qu'on compte plus en 2000. C'est-à-dire qu'on arrête un peu d'avoir comme référence déjà un truc très christique.
C'est vrai.
Vous voyez, qu'on se dit, tiens, créons un nouveau monde où, par exemple, on partirait pas de la naissance de notre truc qui n'existe pas.
C'est vrai.
Au hasard, comme ça.
Bon, non, mais c'est une très bonne réflexion que tu nous fais là.
Okay. pourquoi on devrait attendre le 1er janvier pour être heureux pour les gens qu'on aime? Et pourquoi on devrait attendre le 1er janvier pour prendre de bonnes résolutions? Pourquoi on devrait attendre le 1er janvier pour être enfin un peu correct, un peu humain?
Du rituel.
Du rituel. Le religieux reprend sa force.
Et je voulais juste mettre un petit truc, c'est parce que je l'avais partagé avec une compagnonne militante, et elle me disait oui, mais quand même, je voudrais pas quand même qu'une société anarchiste se défasse de toute chose qui serait commune, en fait. Et moi, je pense vraiment qu'en fait, Libertad, il appelle pas à ne pas se souhaiter les choses. En fait, il dit juste qu'on doit arrêter d'être faux cul, quoi.
Bah, souhaitez pas, et la personne qui vous oppresse.
C'est ça.
C'est surréaliste.
C'est ça.
Moi, je sais que quand on va au boulot et qu'il faut dire bonne année à ses chefs, par exemple, qui après vous viennent 2 heures après vous expliquer que vous allez pas assez vite et que vous êtes nul, il faut être un peu étrange dans sa tête pour y arriver, quoi. Et on le fait tous, hein, même moi. On le fait tous. Mais on se rend compte que c'est étrange de le faire. C'est ce que souligne dans ton texte Libertad, quoi. C'est qu'à un moment donné, pourquoi on fait ça, en fait? Pourquoi est-ce qu'on s'obstine à faire ça?
Par putain de convention sociale, excusez-moi pour le mot, mais voilà, on est tellement habitué à se faire des risettes, comme il le dit, que on ne distingue plus qu'est-ce qu'il faudrait finalement vraiment dire et souhaiter. Oui. Si il faut une date pour souhaiter les choses.
Mais oui, c'est ça.
Donc. Ouais. Bon. Alimente ton hypocrisie sociale.
Et ben voilà, c'était juste une petite entrée, et puis on va s'écouter un morceau, et puis on se retrouvera tout de suite après.
Je suis Paris, je suis Lucien, je suis Charlie, je suis Chagrin, je suis Pogo, je suis pour rien, je suis métro, je suis Pantin, je suis Vin Rouge, je suis Jamal, je suis le cœur rouge, je suis l'hirondelle, je suis Pigalle, je suis bar tabac, je porte pas de voile, porte pas de croix, je suis Paris, je suis parfum, je suis Titi parisien, je suis perdu, je suis la rue, je suis Karim, tu m'as pas vu, je suis quartier, je suis populaire, je parle français, je bois de la bière, je suis pas catho musulman, je suis pas juif, je suis pas croyant, je suis bistrot, je suis résistant, je suis drapeau quand il est blanc, dans un verre avec un croissant, je suis torché un peu tout le temps, je suis Hakim, je suis pas voyou, je suis Salim, je suis Loulou, je suis Jimmy, je suis Jean-Jean, je suis Gabi, toujours partant, je suivrai Manou n'importe où, jusqu'à Saint-Denis, jusqu'à Saint-Cloud, jusqu'en hiver, jusqu'au printemps, je suis la fleur au testament, je suis la terre, je suis mes frères, j'ai pas d'abri quand vient l'hiver, je suis son pognon, je suis populaire, l'univers pas de frontières, j'ai pas de réseau communautaire, je parle français, je bois de la bière, la santé de tous mes frères, la nuit debout, le cul par terre, je suis beurré, je suis beurette, quand je suis bourré, je fais des claquettes, quand je suis charbon pour le carton, je suis pompette, je suis pompon, je suis mimi, je suis pinson, je suis pas proprio à la con, je fais mon charlot à l'horizon, crois-moi non, je me fais pas de pognon, je suis écolier, je suis écolière, je suis ouvrier, je suis ouvrière, je suis lycéen, mais pourquoi faire? Pour aller pointer au cimetière, je suis étudiant pour le chôme du, pour les soirées quand j'ai trop bu, oh, tu sais moi, je suis solidaire, surtout pour partager la bière, avec Manou, avec ta sœur, tu sais moi, n'importe quelle heure, je suis partisan, je suis travailleur, même si j'ai le cœur toujours chômeur, je suis la jeunesse de mon pays, je suis pas qu'avec mon whisky, moi j'aime pas les foules en liesse, pour bon, moi je vais pas à la messe, je suis pas Facebook connard, moi je suis pas boursitocard, moi j'ai pas Twitter, moi j'ai pas de followers, moi je suis métro, boulot, prolo, je suis pas radio, télé, facho, moi j'ai pas touché le magot, moi j'ai juste payé mes impôts, je suis pas Marine, je suis pas Marion, pas Jean-Marie pour la nation, moi j'ai pas de religion que celle des enfants du charbon, je suis pas Dieu, pas l'assassin, j'ai bien la vendre, fils de rien, j'ai juste l'air un peu chagrin, toujours réfugié clandestin, je suis la dictature ici, du roi pognon dans mon pays, je suis l'inculture à profit, je suis le code-barre dans le caddie, je suis l'invasion des ignorants, les fautes de France et tu comprends, je suis nénuphar avec un F, je suis la population dans le Z, on m'appelle la démocratie, je suis les temps pour sans-abri, je suis média, je suis politique, je suis la honte, l'ordre public, je suis les blogs sans cerveau, je suis la parole aux fachos, je suis mouton mais j'aime bien ça, marcher vers l'abattoir je crois, je suis la télé, réalité, je suis les pornos pour les CP, je suis les joints, récré, mystère, faute de français, je suis l'enfant des pornocraties, je suis pas maître de jupe à Paris, je suis l'enculerie pour les taxis, mais j'envoie des bombes en Syrie, je suis vendu
je suis cocu, je suis ma culture disparue. Je suis des millions de parvenus qui savent pas qui sont les poilus. Je suis commerçant pour trou du cul, je suis paysan mais c'est perdu. Je suis heureux à mort du franc, puis du français de temps en temps. Je suis trait d'union, sans trait d'union, pour le règne des désunions. Je suis le pape sous mission, je suis la collaboration. J'ai le cerveau sous perfusion, j'ai résolu la question. Pour me faire prendre par le fion, tu sais moi j'ai l'application. Peuple désuni, désunion, pour sa divise, mais la nation. Merci beaucoup le roi média, tant que ça fait vendre dans les choux gras. Des enfants du pétrolifère, toujours pour mieux niquer la terre. Des actionnaires pour la guerre, mais dis-moi qui es-tu mon frère. Je suis écolier, je suis écolière, je suis ouvrier, je suis ouvrière. Je suis lycéen, mais pour quoi faire? Allez, pointer au cimetière. Pour le chaume du, pour les soirées, quand j'ai trop bu. Tu sais, moi je suis solidaire, surtout pour partager la bière. Avec Manou, avec ta sœur, tu sais, moi n'importe quelle heure. Je suis partisan, je suis travailleur, même si j'ai le cœur toujours chômeur. Je suis la jeunesse de mon pays, je suis pote qu'avec mon whisky. J'ai pas d'abri quand vient l'hiver. Je suis la terre, je suis mon frère. Je suis la terre, je suis mon frère. Je suis la terre.
Et vous êtes toujours à l'écoute de la causerie, comme tous les dimanches, sur l'antenne de Radio Canu ou sur les internets. Et bien, on vient de s'écouter Damien XVI avec le titre « Je suis issu de son... » de son gros opus, triple album. Enfin bon, c'est une grande, grande œuvre complète. Et je pense à écouter de manière comme un ensemble. Parce que certains titres sur le premier album de cette grosse, grosse œuvre est un petit peu... pas très sympa. Enfin, pas tous. Eh bien, la suite, c'est Jonathan qui veut nous parler de choses qui font peur, mais avec un peu d'humanisme dedans.
C'est une chose qui fait peur.
Ouais, mais c'est comme le squelette dans The Freak Show.
C'est ça. C'est pas censé faire peur.
C'était drôle. Non, ouais, j'ai décidé d'aborder les choses de manière un petit peu analytique en vous parlant d'idéal humaniste des films d'horreur. Alors, je préfère prévenir les auditeurs, attention, spoiler, je vais révéler des fins de films. Voilà, comme ça, maintenant, si t'as pas envie de savoir la fin, bah, tu éteins ton poste pendant un quart d'heure. Voilà. Alors, donc, pour commencer, voilà, à première vue, les films, séries, voire romans dits d'horreur, donc qui appartiennent à ce genre, représentent quelque chose qui se veut terrifiant, glauque, gore ou encore dérangeant. On associe souvent l'horreur à la déviance, aux divers excès dont les humains sont capables, mais au-delà de cet aspect superficiel, personnellement, j'ai pu constater qu'il y avait très souvent, pour ne pas dire toujours, un exemple ou contre-exemple humaniste suggéré dans ce type d'œuvre. Ah ah, je m'explique. Dans ce genre de film, bien sûr, le genre pouvant varier hein, d'un regard à l'autre, on a plusieurs catégories. Alors, je vais commencer par expliquer ça pour développer ma pensée ensuite. Alors, dans le comment fait-on ces films ? Eh bien, on utilise, a priori, trois principes principaux. Ouais, principes essentiels. Le jump scare, c'est-à-dire faire bondir de surprise mêlée à de l'horreur le spectateur qui va être surpris et horrifié par une image qui intervient à l'écran de manière tout à fait fortuite. Donc je citerai pour ça Damien, La Malédiction de 2006 de John Moore ou alors Insidious de Adam Robitel, qui sont des films qui font apparaître des créatures régulièrement dans les miroirs, dans les angles de portes, dans ce genre de choses et qui ont un effet particulièrement sur moi, me faire hurler. C'est-à-dire que je vois ça apparaître d'un coup comme ça, alors qu'on est dans une ambiance hyper stressante, c'est pas. Donc voilà, ça fait peur.
C'est là où on sursaute, quoi, c'est ça?
Totalement.
Alors, on sursaute ou on hurle quand on est
Jonathan? Oui, on peut même d'ailleurs sursauter en criant.
Sursauter en criant, ça marche aussi pour le jumpscare, voire carrément sauter de son siège, parce que ça arrive, ou alors, un petit clin d'œil à quelqu'un qui me connaît bien, écraser le poignet de sa collègue d'à côté, complètement, et lui rentrer les ongles dans la chair.
Okay.
Voilà, donc ça c'est le jumpscare, c'est le moment où on surprend en horrifiant. Il y a le gore aussi, qui est le principe d'exposer des scènes sanguinolente. Exemple, La maison près du cimetière de Lucio Fulci, qui est le premier film qui montre abondamment, finalement, donc ça date des années 70, des corps qui perdent leurs tripes, leur sang, leurs organes, des parties d'eux-mêmes.
Ouais, là, enfin, comme dans La Colline à des yeux, dans Cannibal, tout ça.
Voilà, enfin. c'est vraiment, voilà, c'est un genre où on montre l'intérieur de l'être humain, finalement. Avec tous les mauvais jeux de mots du monde. Et enfin, le thriller, qui est le principe, enfin, dont le principe, c'est de maintenir l'angoisse et le suspense, et de ne pas savoir finalement comment le héros va s'en sortir. Donc, un des plus célèbres thrillers, c'est Saw de James Van. En fait, qui, bah voilà, le personnage est confronté à un psychopathe qui le maintient dans une espèce de torture mentale parce qu'il doit se libérer de sa situation. Et toi, spectateur, et bah, tu es là en train de stresser tout le long du film parce que tu ne sais pas s'il va réussir à se libérer ou pas. Et tu ne sais pas si le but c'est qu'il se libère ou pas. Et tu ne sais pas vraiment quelles sont les intentions du gros méchant. Et en fait, tout ça cumulé fait que bah, c'est un thriller. Voilà, c'est un gros psychopathe qui a décidé de te faire. Flipper pendant minimum 2 heures. Voilà. Donc ça, c'est les trois, on va dire, les trois grosses orientations du film d'horreur. Et avec quoi on les couple pour que ça marche, pour que ça fasse un petit peu une histoire? Eh bien, des types de scénarios. Alors, dans les types de scénarios, il y a le teenage scénario, donc qui met en scène des adolescents qui se retrouvent en groupe, mais isolés du reste du monde. Typiquement, le fabuleux Evil Dead 1. Je précise, de Sam Raimi, où bah, une bande d'adolescents se retrouve dans une maison qui est complètement abandonnée au milieu de la forêt, puis bon, vont finir possédés par la maison et la forêt qui l'entoure.
Ils trouvent un livre où il y a marqué ne pas lire, et forcément ils lisent.
Évidemment, et un enregistrement vidéo qui, audio qu'il ne faut absolument pas écouter, mais et qu'ils écoutent. Voilà, donc ça c'est la base.
Ah, les jeunes.
Voilà, bah, toujours plein d'hormones, ils ne réfléchissent jamais. Non, je plaisante. C'est d'ailleurs un film très intéressant, parce qu'on pourrait y revenir dessus de multiples fois pour montrer ben, comment finalement la solidarité ou l'égoïsme vont déterminer certaines situations et comment le héros, donc attention spoiler, finit par s'en sortir parce que lui il est sympa avec tout le monde. Mmh. Non, mais enfin vraiment, ça, c'est, en fait. Il est sympa avec tout le monde donc il finit par s'en sortir. Donc là on aborde le début de ma théorie. Hein. Après, donc, dans d'autres types de scénarios, il y a le zombie, le vampire, enfin, la créature qui est créée par l'homme, la nature ou d'origine extraterrestre. Donc, premier film du genre, c'est Frankenstein, diffusé en 1931 de James Whale, où, en fait, d'ailleurs, je tiens à préciser que Frankenstein est le nom du scientifique qui donne vie à la créature et non celui de la créature.
Le vrai nom, c'est la créature du docteur Frankenstein.
Exactement. Et, ouais. Et adapté d'un livre dont j'ai pas noté le titre, mais qui est un petit peu plus profond que juste Frankenstein. Et dans l'idée, en fait, c'est de montrer que bah, la créature en soi, qui fait si peur, qui est un mort-vivant, hein, ou ranimé par un docteur fou, bah, n'est pas le méchant du film. Au final, c'est pas lui qui dirige ses actes, puisque voilà, il n'est pas tout à fait responsable. Alors, j'y reviendrai parce que c'est aussi un sujet qui est abordé dans le film d'horreur, le fait que bah, le méchant n'est pas toujours celui qu'on croit. Il y a aussi, après, qui va bien avec le thriller, le principe de psychopathe, donc dans les scénarios. Donc un personnage dont la psyché est totalement déviante et qui provoque le danger. Exemple très célèbre encore, Shining de Kubrick, avec un exceptionnel... Oh, j'ai mangé son nom. C'est pas possible. Le meilleur, le fou, Jack Nicholson, un exceptionnel Jack Nicholson qui joue la folie dans cet hôtel où il est enfermé, où il finit par tuer sa femme et son gosse, avec un gosse qui finit lui aussi un petit peu par être complètement déviant, puisqu'il parle avec son index en disant « Red Rum, Red Rum, Red Rum ». Enfin, c'est totalement n'importe quoi. Mais aussi un film français que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est l'équipe du Groland qui a joué dedans, qui s'appelle « La Meute » de Franck Richard, et qui parle bah, finalement de toute une famille complètement cannibale. Donc voilà, c'est des psychopathes. Et un quatrième type de scénario que j'ai pu répertorier, les horreurs ésotériques ou religieuses. Donc la possession, le fait que le diable vient posséder le monde, etc. Prendre le contrôle, envoie ses démons, etc. Comme par exemple dans l'excellent Exorciste de William Friedkin, où on a une jeune fille qui est complètement possédée par le diable et il va falloir pouvoir l'en sortir de cette possession. Alors bien évidemment, les combinaisons entre le comment on fait un film et quel type de scénario sont infinies. Finalement, on peut...
Ah oui, tu peux tout combiner.
Voilà, à partir de ces quelques éléments, on peut faire des films géniaux. Et j'apprécie à titre personnel vraiment l'horreur, le film d'horreur, parce qu'il a un côté cathartique. Il a un côté vraiment mise en scène de l'innommable, du tabou. Et finalement... de ce que l'on imagine parfois, mais que l'on n'oserait pas révéler. Donc c'est assez intéressant d'aller l'étudier là-dedans. Mais pourquoi on a besoin de réaliser ce genre de film? Pourquoi? Parce que bah, quelque part, on a un message à passer. Toute œuvre est porteuse d'un message, quoi qu'on en dise. Même si le message n'est pas forcément à la portée de tous, elle l'amène. Et là, voilà. Les objectifs d'un film d'horreur, bah, ça va être quoi? Ça va être déjà déranger et provoquer cette catharsis, montrer ce qui est considéré comme tabou. Je citerai un des films que je préfère parce qu'il est nul à chier jusqu'à la fin. C'est Human Centipede de Tom Six, qui est un scénario, c'est totalement subjectif, hein, mais scénario de merde, intrigue pourrie, rythme lent à chier à mourir, mais à la fin, tout le monde est mort, les flics sont morts, le docteur fou est mort, et les deux personnes, celui qui se trouve collé à l'anus et celui dont l'anus se trouve collé à la bouche de la fille, sont morts aussi, et il n'y a qu'une seule survivante, bah celle qui est au milieu. Et ça, c'est quand même le summum du summum de l'horreur.
Mais d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il l'avouait lui-même, il avait la fin, il a enrobé le reste.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il savait ce qu'il voulait, où il voulait aller, mais il a fait un film à rebours. Mais c'est pour ça que je pense que le film n'est pas très bon, parce que c'était juste sa scène de fin qu'il voulait mettre.
Mais parce que cette scène de fin est fantastique quand même, enfin, ça représente le désespoir absolu. Oui, c'est-à-dire que comment faire pour t'en sortir quand tu ne peux plus crier, quand tu ne peux plus utiliser tes fonctions vitales et que tu es entouré directement, collé et cousu à toi de deux cadavres et que personne ne peut t'entendre autour parce que le laboratoire est dans un endroit totalement isolé. Voilà. Donc là, on est déjà dans quelque chose qui est très dérangeant et qui serait un type de fin inhumaine. Donc je commence à arriver un petit peu vers ma théorie. Ensuite, on a le fait de mettre l'humain face à sa propre impuissance. Exemple, encore une fois, El Dio de la Bestia, de Alex de la Iglesia, qui est en fait l'histoire d'une fin du monde qui approche, qui est inévitable, que voilà, enfin, tout le film est construit autour de cette fin du monde qui en fait n'existe pas.
Le jour de la bête en français.
Le jour de la bête, exactement. Et en fait, c'est juste une grosse paranoïa. Voilà, donc en fait il y a des gens qui sont allés tuer d'autres gens, qui sont allés faire mener une guérilla, etc. parce que le diable va envahir le monde, et en fait il ne se passe strictement rien. Tout est dans la tête des protagonistes.
Oui, c'est une très belle dénonciation en fait du fanatisme religieux en réalité.
Exactement, donc mettre l'humain face à sa propre impuissance par rapport à des choses qu'il ne maîtrise pas ou qui n'existent pas, et par rapport à ses réactions aussi. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il y a troisième objectif, dénoncer des comportements du quotidien qui sont bien plus redoutables que des dangers qui sont mis en avant dans les scènes d'horreur. Je citerai l'excellent Nuit des morts vivants de Romero, qui finalement en fait est un film de morts vivants où le héros noir, donc dans les années 60, hein, je le précise, donc une époque aux États-Unis où c'était franchement pas sympa d'être noir.
En pleine ségrégation en fait.
En totale ségrégation. Ouais. Donc à partir de là, déjà un choix politique de la part de Romero qui met en place ce personnage, ce héros, parce que c'est vraiment un héros. Bon, mis à part quelques scènes qui sont un peu machistes, mais bon, on peut pas être parfait.
Oui, voilà, c'est
voilà. Ce que je veux dire. Mais un héros qui va sauver tout le monde, qui va essayer de donner le meilleur de lui-même et qui va finalement, à la fin du film, au lever du jour, quand les morts vivants ont disparu, être tué, abattu froidement par la police, par simple suspicion. Donc finalement, dans les films d'horreur, il y a certains comportements totalement humains, du déjà vu, là, donc là on n'a pas besoin de spoil, qui sont dénoncés. Et finalement, les films d'horreur permettent de défendre certaines valeurs. Et c'est pour ça que je parlais d'humanisme à travers les films d'horreur. Parce que souvent, pour ne pas dire toujours, dans les films d'horreur, comme je le disais, les méchants ne sont pas toujours les méchants. Alors, il y a la question de la tolérance. Dans le film, par exemple, de Psychopathe, on a un méchant incompris. Il faut toujours penser au background. Dans Seven, par exemple, de David Fincher, le psychopathe est un traumatisé de la religion. C'est pour ça qu'il va essayer de tuer des gens en appliquant sur eux les sept péchés capitaux. Donc, son traumatisme va créer un décalage par rapport à la société. Alors certes, oui, il est dangereux, il est méchant, etc. Mais il y a une putain d'explication. Excusez-moi pour le mot. Il y a une explication à ça. C'est-à-dire que c'est la société qui a transformé cet individu en psychopathe. Et c'est ce qui est dit d'ailleurs par Morgan Freeman à la fin du film, c'est qu'à un moment donné, ce genre de créature est créée par la société. C'est parce qu'on...
Mais c'est ce qui avait énormément dérangé d'ailleurs, c'est que le film en fait remet en question la religiosité des États-Unis. Parce
totalement.
Que c'est ça en fait, hein, dans Seven.
Oui.
Hein. Si vous regardez bien le film, c'est le fond est là en fait. Hein. C'est l'idée qu'une société régie par la religion latente en permanence ne peut que donner des fous à un moment donné. Et ça avait beaucoup choqué aux États-Unis, c'est ça qui avait le plus choqué.
Ah bah, j'imagine bien dans un pays où pour devenir président on prête serment sur la Bible, attaquer la Bible, c'est quand même hardcore quoi. Mais voilà. Et puis j'aimerais citer aussi dans ce même style où les méchants sont incompris. pardon, où leurs intentions ne sont pas forcément claires et pas forcément mauvaises. Le film Signe de Manoj Neliyattu Shyamalan, où finalement ces extraterrestres ne sont pas forcément malsains ni malveillants, ils sont peut-être juste là en amis, mais comme il y a une espèce de paranoïa collective qui se monte autour d'eux, ben on va essayer de les détruire. Et donc je vous renverrai à une chronique que Karim Debbache a faite qui s'appelle Chroma, donc saison 1 épisode 4, dont Stan avait parlé il y a quelques émissions, et où il détaille très très bien en fait cette question de comment interpréter ce film finalement, et comment il a voulu être construit pour que ce soit compliqué d'interpréter les choses. Mmh. Et donc là aussi on est dans une logique de réflexion, c'est-à-dire est-ce que je peux m'arrêter au fait que si c'est différent de moi, eh ben je dois en avoir peur, donc qui est totalement de la xénophobie, hein, ça s'apparente au racisme, ou est-ce que je peux essayer de faire preuve de tolérance et de communiquer avant de pointer mon arme sur quelqu'un. C'est quand même une grosse question. Il y a une valeur de solidarité aussi qui est très souvent défendue dans les films d'horreur, surtout dans les teenage films d'horreur. L'idée qu'on s'en sort toujours mieux en groupe, donc c'est un gros thème principal, hein, par exemple dans Souviens-toi l'été dernier de Gene Gillespie. Gillespie d'ailleurs. Voilà. Dans Souviens-toi l'été dernier, on a une bande de jeunes qui bah, finalement a affaire à un tueur en série au crochet, qui est quelqu'un de totalement inconnu. Ceux qui finalement s'en sortent, ce sont ceux qui se serrent les coudes et qui reviennent dans Souviens-toi l'été dernier 2. Voilà. Mais...
Et en dehors de ça, je trouve que dans ce film, il y a une chose qui est intéressante, c'est l'idée de dire, si tu ne nies pas ce que tu as pu faire dans le passé, en fait, si tu acceptes que tu as pu faire de la merde, en fait, bah, tu peux t'en sortir. Mais si tu le nies, c'est là qu'en fait, tu ne t'en sortiras pas.
Eh bien, j'allais y venir, parce que cette question de la solidarité, c'est aussi d'assumer ensemble les conneries qu'ils font. Mmh. Et dans Scream, le fameux Scream, hein, le thème revient. C'est-à-dire que là aussi, c'est des ados qui ne sont pas hyper nets à la base, hein, qui ne sont pas super sympas, mais qui vont devoir faire face à eux-mêmes. Au final, parce que bah, le tueur qui vient les emmerder, c'est quelqu'un qui est dans la vengeance, qui est dans le fait de leur faire payer leur attitude, leurs actions. Et forcément, en étant en groupe, on sera plus fort qu'une seule personne, c'est une évidence, mais aussi en se remettant en question, en essayant d'agir différemment. Et dans Souviens-toi l'été dernier, c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire, bon, il renverse cette personne hein, au début du film, qui va essayer de les tuer ensuite, et c'est la remise en question qui va les amener à trouver qui est le tueur, et hein, l'empêcher de nuire, jusqu'au 2. Voilà.
Bon, ça, c'est un peu le problème des films d'horreur, c'est qu'il y a souvent des suites.
Voilà, donc c'est vrai que j'ai... Mais même dans les suites, on peut trouver des choses très intéressantes. Il y a aussi la question de la communication. Finalement, beaucoup de films d'horreur ne réussiraient pas à être aussi terrifiants si les gens communiquaient entre eux. C'est-à-dire, par exemple, dans le magnifique The Thing de John Carpenter, où on
La chose en français.
La chose. Oh, mais ça va. Dans La chose. Donc, on a des scientifiques qui sont perdus sur une base dans le Grand Nord, hein, voilà, sous la neige, et qui découvrent sous la glace peut-être un germe extraterrestre ou quelque chose qui va finir par les posséder et faire qu'ils s'entretuent. S'il y avait eu une communication, parce que quand les personnages arrivent sur place pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a déjà eu une salve de meurtre, il y a un survivant qui est encore en bonne santé mais qui ne veut pas dire ce qui s'est passé, parce que, alors, dans un premier temps on pourrait se dire que c'est parce qu'il est traumatisé, mais aussi parce qu'il a peur que les nouveaux arrivants le tuent ou le mettent en quarantaine ou s'en occupent d'une manière qu'il ne voudrait pas, alors que s'il avait juste communiqué, pas que ce serait bien passé.
Et si ceux qui arrivaient avaient pris le temps de communiquer
aussi. Parce que ceux qui arrivent, ils voient que tout le monde est mort, ils essayent direct de foutre la baston, quoi. Enfin, c'est... Non, mais voilà. Hein, à un moment donné, agissons en bonne intelligence. Bon, c'est vrai qu'on n'aurait pas de bons scénarios de films d'horreur. Mais quelque part, est-ce que c'est pas une manière d'apporter un contre-exemple qui pourrait nous donner des pistes? Et il y a aussi une très très bonne chose qui est défendue par les films d'horreur, c'est le respect de soi-même, surtout pour les femmes. Donc j'aimerais citer le fameux Chétan, donc deux films français hein, sur la question, le fameux Chétan de Kim Chapiron, dont la bande originale c'est Bâtard de Barbare de Meylan, que je vous conseille d'écouter, mais bon, je vous préviens, le texte est violent, c'est un texte contre le viol, voilà, hein, clairement, qui dit que bah il faudrait tuer, égorger, revioler tous les violeurs, donc c'est pas très très sympathique non plus. Mais quelque part, c'est un petit peu le thème de ce film, où finalement c'est une jeune fille qui attire tout un groupe de personnes dans son antre pour les posséder, les faire disparaître et les tuer, quoi. Enfin voilà, un classique. Mais quelque part, quand je parlais de respect de soi, c'est que aussi, quand ces jeunes vont vers cette fille, c'est clairement dans l'intention, dans de mauvaises intentions. C'est pas tout à fait avoué, mais voilà.
C'est quand même bien ressenti. Hein.
C'est très très bien ressenti. Dans... Le principe, c'est d'aller la violer.
Ah oui, parce que dans Chétagne, il y a l'idée que si on peut la coincer à trois, on la coincera à trois. Voilà. C'est ce qu'ils se disent dans la voiture, quand même. Donc voilà.
Donc c'est quand même une grosse notion de bah voilà. Est-ce qu'on bah, bon déjà c'est tel est pris qu'ils croyaient prendre.
Oui, c'est ça, c'est l'idée. Voilà. C'est l'idée du film du retournement avec parce que Chétagne, c'est le diable. Hein, voilà. Pour ceux qui savent pas ce que veut dire Chétagne, et c'est ouais, il tombe sur un Vincent Cassel. Très diabolique.
Très diabolique. Et qui finalement possède cette jeune femme qui est une tueuse et qui est une tueuse parce que les intentions des personnes à la base envers elle sont mauvaises. Et pareil pour Grave de Julia Ducournau qui parle d'une jeune fille qui découvre la chair humaine, mais une jeune fille qui à la base est totalement reniée par la société, totalement mise au ban par ses camarades et qui, pour réussir à se trouver une force, une identité, va se tourner vers le cannibalisme. Voilà, donc c'est vrai que c'est des films qui sont vraiment toujours... Enfin voilà, pour moi le film d'horreur c'est quelque chose qui amène aussi beaucoup de sensations directement, de manière très violente, et on peut pas forcément les analyser sur le moment, mais elles sont hyper cathartiques. Et encore une fois... Des valeurs sont défendues, et une qu'on verrait peut-être un petit peu moins, mais qui me tient à cœur, c'est la notion de justice et de vivre et laisser vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les individus sont différents qu'ils sont mauvais. Donc j'y reviens là-dessus parce que ça me tient à cœur, mais c'est souvent le contraire. Alors par exemple, une série d'horreur que j'ai beaucoup appréciée, American Horror Story, dans les épisodes de la saison 2 où sont mis en scène des artistes de cirque plus ou moins... avec des particularités physiques, il y a des meurtres qui sont commis, et finalement c'est celui qui serait le moins soupçonnable qui les a commis. Et finalement c'est toujours ça, c'est on va accuser les personnes les plus laides, entre très gros guillemets, les plus différentes, avant d'aller chercher vraiment les preuves qui nous amènent au crime. De la même manière, un très très bon épisode de X-Files, oui je suis une grande fan de The X-Files, pas que pour David Duchovny et Gillian Anderson, hein, parce que c'est aussi une très très bonne série. Donc l'épisode des artistes de cirque, donc à la saison 2, l'épisode 20, intitulé Les faux frères siamois, où finalement on a un mec qui paraît bien sous tout rapport, et c'est son faux frère siamois qui va tuer tout le monde. Un truc qu'on ne soupçonnerait pas, encore une fois. Et on va passer par l'accusation de tous les membres du cirque qui sont eux aussi, qui ont des particularités physiques. Et un autre très bon film qui est dans la dénonciation de l'injustice sociale, c'est Hostel de Eli Roth, dont tu m'as parlé en prépa, Fab. Donc l'idée, c'est pas parce que des gens ont l'air respectables, théoriquement, qu'ils le sont. Dans Hostel, typiquement, ce sont des gens qui sont riches.
Et qui payent pour pouvoir tuer et torturer.
Voilà, des pauvres.
Oui, tout à fait. Voilà.
Donc dans l'idée, c'est vraiment là la dénonciation totale d'une domination par une caste, hein, parce qu'on peut plus parler de classe sociale à ce niveau-là. Quand on a le droit de vie et de mort, on est dans une caste. Et donc, quelque part, il y a cette dénonciation d'une injustice sociale et d'un préjugé. Et voilà, plus généralement de l'impossibilité de l'humain à laisser vivre, putain. Ça fait beaucoup de putain. je le reconnais.
C'est ton côté marseillais qui ressort de ce soir, j'ai l'impression.
C'est le côté marseillais, puis c'est le côté... J'ai vraiment besoin de le dire.
Ça vienne de toi, là.
Ça vienne de moi. Pour de vrai. Et donc, pour conclure, parce qu'il va falloir que je le fasse, on trouve beaucoup de concepts humanistes au travers des films d'horreur, que ce soit en termes de critique sociale, en termes de défense de valeurs, de solidarité, de justice. Et l'horreur, en réalité, c'est l'homme. C'est l'homme, et ces films donnent des contre-exemples et des pistes pour lui permettre de s'améliorer. Parce que c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'un film d'horreur, c'est pas juste pour faire peur. C'est jamais juste pour quelque chose.
Il y en a quelques-uns qui servent qu'à ça.
Oui, et encore, je suis sûre qu'on peut trouver le message derrière. Après, c'est vrai que quand on va prendre des films comme les films de trauma, qui sont du gore un petit peu burlesque, oui, le message est peut-être moins évident, un peu plus subtil. Mais bon, il y a cette notion toujours d'aller chercher quelque part qu'est-ce qui te dérange et pourquoi ça dérange. Et si ça te dérange, peut-être que c'est qu'il faut que tu te remettes en question.
Non, Oui. Bah moi, j'avais juste un exemple aussi de film que je trouve extrêmement intéressant, c'est Alien. Oui. Que j'ai trouvé très intéressant avec ce personnage, bon, le Ripley que tout le monde connaît, mais dans les années 80, c'est une femme qui est mise en avant, et ça, ça avait vraiment surpris tout le monde. Et surtout, en plus, elle ne le fait pas uniquement avec des muscles, elle réfléchit beaucoup dans le film pour s'en sortir. Et surtout, le xénomorphe, en fait, c'est pas le méchant. Le méchant, c'est la société qui veut faire du xénomorphe une arme biologique.
Et
c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a un retournement du truc de dire, oui, le truc, il peut te tuer, mais c'est pas lui, en fait, le méchant. Lui, il fait son boulot. En fait, son job, c'est de bouffer tout ce qu'il y a devant lui. Donc, il le fait. Mais il a pas l'intention juste de te manger. Il est, voilà. C'est juste qu'il est, il est comme ça. Par contre, le robot, parce que c'est le robot. Ah, on vous a spoilé Alien, là.
Je suis désolée.
Mais le robot, lui, est là programmé pour récupérer le xénomorphe et en faire une arme biologique.
Totalement. Et d'ailleurs, une chose qui est très intéressante dans ce film aussi, c'est que l'héroïne n'est pas super sympa. Elle n'est pas non plus super calibrée. Elle n'est pas, enfin, voilà, elle n'est pas ce qu'on attend du héros. D'ailleurs, j'ai juste un tout petit peu oublié, mais John Carpenter aime beaucoup les anti-héros.
Tout à fait.
Alors, j'en parle parce que, voilà, c'est aussi une thématique qui revient souvent dans le film d'horreur. Bah, le héros qui va s'en sortir n'est pas parfait. Il s'améliore pour pouvoir s'en sortir. Et ça, pour moi, c'est une putain de bonne leçon. J'arrête avec les putains.
C'était ta soirée.
C'était ma soirée. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu de musique?
Allez voir s'il y a de la vie sur Mars.
Ouais.
It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more.
Et vous êtes bien de retour dans la causerie sur Radio Canus, 102.2 pour les gens qui nous écoutent sur les ondes et radiocanus.org pour ceux qui nous écoutent sur le net. Et tout de suite, Fab, tu vas nous parler de... Chérie, ça a coupé.
Je vais vous parler de téléphonie mobile. Alors, en fait, c'est surtout parler du fait que quand un outil désingue une génération, voilà. Alors, pourquoi je vous porte ce titre? Je vais déjà vous présenter la personne qui a écrit ça. Cette phrase-là. Alors, c'est Jen M. Twenge, qui est une spécialiste de l'impact des nouvelles technologies sur nos vies. Elle est docteure en psychologie et professeure en sciences cognitives. Elle étudie la question des smartphones et des réseaux sociaux depuis une quinzaine d'années. Et avant, elle étudiait les technologies au sens large. Son angle d'attaque est la notion de l'estime de soi. Elle est prof à l'université de San Diego, en plein, pas très loin de la Silicon Valley, et elle est détestée dans la Silicon Valley, pour être très clair. Un tout petit peu d'histoire, les premiers réseaux sociaux apparaissent il y a à peu près 20 ans aux États-Unis, si on considère que les forums de masse étaient des réseaux sociaux, c'est ce qu'elle prend comme prérequis. Voilà, et elle dit que les premiers, c'est 4chan et Reddit, qui étaient les premiers chats et forums de masse, voilà. Et elle dit, le smartphone, eux, voit le boom arriver en 2007, avec l'apparition de l'iPhone. Voilà, et soit il y a une dizaine d'années. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le smartphone a donc 10 ans et que dans les produits, n'importe quoi, dans les pays riches, eh ben aujourd'hui, 4 personnes sur 5 ont un smartphone. Vous voyez, en 10 ans, c'est devenu un outil extrêmement répandu. Ce qui intéresse l'étude que je vais vous présenter, c'est la croisée des deux. Le fait d'avoir un outil, le smartphone, dans la poche, qui nous relie au reste en permanence, les réseaux sociaux. Voilà. Alors, le constat de Jen Twenge, c'est celui-là. L'arrivée du smartphone a changé radicalement tous les aspects de la vie des adolescents, de la nature de leurs interactions sociales à leur santé mentale. Ces évolutions ont affecté les jeunes aux quatre coins du pays et dans n'importe quel type de foyer. La tendance s'observe parmi les riches, comme chez les pauvres, quelle que soit l'origine ethnique, dans les villes, les banlieues et les petites villes. Du moment qu'il y a une antenne relais, il y a des adolescents qui vivent leur vie sur leur smartphone. Voilà, ça c'est sa conclusion de son étude. C'est intéressant parce que elle le redit plusieurs fois, hein. J'ai lu pas mal, elle fait une quarantaine de pages, l'étude elle est assez intéressante. Elle le redit plusieurs fois, c'est l'antenne relais qui fait le lien, voilà, vraiment. C'est le fait qu'il y ait accès ou pas au réseau. Hein. C'est pas votre couleur de peau, c'est pas votre religion, c'est pas vos moyens, c'est vraiment, est-ce que vous avez un réseau ou pas à côté. Alors, qu'est-ce qu'elle retire de son étude? Ben en fait, que elle fait un axe sur la solitude et la dépression. Alors, pourquoi en fait elle dit que c'est ce qui devait ressortir le premier? Je vais essayer de vous le résumer. Alors, contrairement à une idée reçue, le fait d'être connecté en permanence à ses amis, à ses proches, et en fait, mine de rien, au reste du monde, au monde entier, hein, par un smartphone, n'entraîne pas forcément un sentiment de plénitude et de bien-être, c'est même plutôt le contraire qui se produit. L'étude souligne que plus un adolescent passe de temps sur son smartphone, et moins il passe de temps entre amis, il a moins de rancards, il pratique moins le sexe, il a moins de sommeil. Alors le sexe, c'est au sens large, avec partenaire ou l'onanisme. Il a moins de sommeil, il ressent plus de solitude, il a moins de volonté d'être indépendant, et ça se ressent notamment aux États-Unis par le fait qu'il y a de moins en moins d'adolescents qui veulent passer leur permis de conduire, qui est à 16 ans, je vous le rappelle, aux États-Unis. En fait, plus le temps passé sur son smartphone est long, plus les symptômes constatés sont ceux d'une dépression profonde. Voilà. Donc elle a axé son étude sur les USA, hein, parce qu'elle étudie les États-Unis, et surtout sur les adolescents, parce qu'elle s'est rendue compte que c'est là qu'il y avait le plus gros impact du fait que les ados sont nés avec le smartphone dans la poche. Vu qu'en fait, les gens qui ont aujourd'hui 17 ans, et ben, quand ils avaient 7 ans, en fait, le smartphone apparaissait, donc ils ont eu un smartphone à l'adolescence. Voilà. Dans quelques chiffres aux USA, en 2015, seuls 56% des élèves de terminale sont sortis, entre guillemets, avec quelqu'un, compte 85% des jeunes 10 ans plus tôt. Un chiffre qui était stable depuis les années 60. Le nombre d'enfants qui manquent de sommeil a augmenté de 57% entre 1991 et 2015. Concernant la consommation d'alcool, des rencontres amoureuses, les adolescents se comportent comme nous le faisions à 15 ans, et ceux de 15 ans comme nous le faisions à 13. C'est très très symptomatique.
Ouais.
S'ils sortent moins souvent, les rares fois où ils le font sont abondamment communiqués sur Snapchat, Instagram, Facebook. Et ceux qui ne sont pas invités, du coup, se sentent donc cruellement exclus. Le nombre de jeunes filles se sentant rejetées et isolées a augmenté de 48% entre 2010 et 2015. Et le nombre de garçons de 27%. Alors ces pourcentages sont issus d'un panel qu'elle suit, hein, c'est pour ça qu'elle... Voilà, c'est un panel de 60 000 ados. Donc voilà, alors elle n'est pas toute seule hein, pour le faire, hein. Elle a des étudiants, vous savez comment ça marche en sociaux et en psycho, mais elle, ils suivent en tout 60 000 adolescents, donc c'est un panel représentatif.
Oui, c'est pas un sondage sur 1000 personnes.
Voilà, quoi. C'est une vraie étude, hein, c'est pas juste, voilà. Elle note aussi dans son étude une augmentation des tocs, des peurs, des difficultés à se trouver soi-même en comparaison avec les études faites sur la génération précédente sans smartphone. C'est pas compliqué, elle a repris une étude qui datait de 2000, elle l'a comparée avec son étude de 2015 et elle se rend compte qu'en fait, eh ben, par exemple les TOC, je me rappelle plus le pourcentage, ah si, c'est, les TOC augmentent de 60%, ce qui est énorme, hein. Voilà. Alors je vous rappelle ce que sont les TOC, un trouble obsessionnel compulsif, donc c'est-à-dire par exemple le fait de vous fermer une porte, faut vous la refermer trois fois pour être sûr qu'elle soit fermée, enfin des choses comme ça, et c'est ce qu'on appelle la ritualisation de la vie. Et en fait, comme le smartphone entraîne en fait une ritualisation, ben, ça l'entraîne sur d'autres aspects de la vie, voilà. Mmh. Un chiffre assez saisissant. Entre 2000 et 2015, le nombre d'adolescents qui voient leurs amis presque tous les jours a chuté de 40%. Une baisse qui s'est particulièrement accentuée au cours des trois dernières années, avec l'apparition de Snapchat et d'Instagram.
Ouais, vu qu'on se voit tout le temps sur les réseaux, pourquoi se voir en vrai de vrai, quoi.
Exactement. Mais surtout, c'est parce qu'en fait, on joue sa vie plus qu'on ne la partage.
Et plus qu'on la vit, finalement.
C'est ça. On la joue plus qu'on la vit.
Oui, oui.
Et finalement, on ne la partage pas réellement. On parle de partage. Mais en fait, on partage une vie jouée. Ne serait-ce que parce qu'on met des filtres. Hein.
Oui, c'est oui. On partage une pièce de théâtre.
C'est
en fait,
ça. Quoi. Et donc, en fait, on ne partage pas sa vie. Ce qu'on faisait avant avec ses amis, c'est-à-dire de prendre le temps de discuter, de se poser. Alors, Jane Twenge, elle le dit, c'est pas seulement une question de jeunes qui font moins la fête, mais de jeunes qui traînent de moins en moins ensemble. C'est quelque chose que les jeunes avaient l'habitude de faire, les geeks et les sportifs, les pauvres et les riches. Tout le monde en fait traînait ensemble, selon diverses activités. Si vous êtes sportif, vous alliez au sport ensemble. Si vous étiez geek, vous faisiez des LAN parties. Voilà. La patinoire, le terrain de basket, le bassin de baignade de la ville, le spot de pêche du coin, ils ont tous été remplacés en fait par des espaces virtuels accessibles par les applications, par le web et par le smartphone. Voilà. Et ça, c'est son constat. Dans cette société où on est de plus en plus seul, en réalité, contrairement à ce qu'on croit. Actuellement, les jeunes de 16 ans, donc aux États-Unis, sortent moins que ne le faisaient ceux de 12 ans en 2009. Sortir de sa chambre, hein. Voilà. Ils sont pas sortir avec quelqu'un. En fait, ils sont en train de cesser progressivement de sortir, de se socialiser par les parcs, les squares, etc. Et ils restent chez eux, seuls, avec leur smartphone. D'ailleurs, pour elle, en grande partie, cela pourrait expliquer l'augmentation flagrante des suicides chez les jeunes et en particulier chez les jeunes femmes. Le poids du paraître étant la première cause de suicide, on imagine bien le lien qui peut se faire entre une vie à jouer et la vie réelle, les critiques incessantes, le mépris qui s'affiche.
Les remarques sont sans filtre,
oui,
alors que les images le sont avec filtre.
C'est exactement ça. C'est ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, elle dit les réseaux sociaux sont un espace sans filtre. On écrit sur les réseaux sociaux sans aucune empathie. C'est très très rare. D'abord, on veut toujours avoir raison parce qu'on se parle à soi-même, et en plus, on ne met pas du tout les formes parce qu'on se dit c'est pas grave, c'est que du virtuel. Sauf qu'en fait, les gens le prennent pour eux et le prennent violemment. Dans son étude, elle souligne aussi que les réseaux sociaux sont des zones, donc comme je le disais, sans politesse et sans filtre, c'est ce que je viens de dire. On y est donc souvent plus arrogant, ça elle l'a noté, plus dur, moins empathique. Par exemple, elle note que l'empathie, pour elle, dans son panel sociologique, a diminué de 60% dans la façon de s'exprimer, y compris en dehors des réseaux sociaux. C'est-à-dire que le fait de passer énormément de temps sur les réseaux sociaux fait que quand vous parlez même de vive voix, vous ressentez moins d'empathie. C'est pas anodin quand même. Et ça entraîne de fait une perte de bienveillance dans toute une génération. Et ça, c'est pas anodin non plus. Hein, voilà, il faut pas rêver. L'impact sur le fait de créer aussi, ça c'est le deuxième impact, et c'est le dernier avec que je vais souligner ce soir. C'est ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, la création, le dépassement de soi, parce que la création c'est se dépasser soi-même, c'est aller au-delà de sa base, hein, c'est on crée. Alors la création c'est au sens large, hein, c'est écrire, penser, voilà. Ne peut avoir lieu que si l'on accepte de s'ennuyer. En effet, c'est dans les moments de détente neuronale, autrement dit d'ennui, que notre cerveau peut créer, qu'on prend le temps d'assimiler les connaissances, qu'on se découvre des passions et des envies. C'est-à-dire, c'est exact inverse de ce que vendent les téléphones portables, vu qu'on essaie de vous occuper au maximum et tout le temps. Or, les smartphones et leurs amis, Google en particulier, et Facebook, nous poussent à non seulement être tout le temps occupés, et c'est à ça que servent les notifications, et à capter notre attention. Nous ne nous laissons plus le temps de nous poser, mais aussi en nous gavant de fausses connaissances. Comme on a tout dans la poche, on devient con et fainéant. C'est-à-dire qu'on n'apprend plus. On se dit, bah, c'est pas grave, on fera OK Google, et puis il nous dira bien ce qui va se passer. Ou on dira Facebook, donnez-moi le résumé sur quelque chose. Et en réalité, on ne fait qu'absorber des résumés faits par des algorithmes, et pas par des humains, et qui en fait sont extrêmement superficiels. Je vous invite à faire l'expérience que j'ai faite. Demandez à Google qui est Angela Davis. Bah, vous allez découvrir que c'était une militante afro-américaine qui a eu des ennuis avec le FBI.
Point.
Point. Vous ne saurez ni pourquoi elle militait.
C'est un peu léger, ouais.
C'est un peu léger, hein. Mais voilà. Mais vous saurez que c'est une militante afro-américaine, c'est bien. Mais sauf qu'elle militait pourquoi, quelles étaient ses idées pour... Et en fait, on s'arrête à la surface des choses. C'est un exemple. J'ai fait un autre essai juste pour voir comme ça. J'ai demandé qui était Emmanuel Macron. Et Google m'a répondu, Emmanuel Macron est le président des Français.
D'accord.
Voilà.
Ah.
Non mais c'est bien, sauf que ça vous donne rien sur qui il est, non, quel est le régime qui est en,
oui,
en place en France,
quelle est sa pensée politique, etc. Mmh.
Alors du coup, je me suis dit, qui est Kim Jong-il?
Kim Jong-un,
pardon. Oui. Mais c'était son père. Et ben justement, il m'a dit, c'est le fils de Kim Jong-il à la tête de la Corée du Nord.
Ok.
Donc ça.
Donc tu sais pas si c'est un dictateur, si c'est.
Et là, vous avez tout compris.
Si ça se trouve, c'est un petit roi sympathique.
Ouais, donc voilà, si on s'arrête au savoir, ce qu'on appelle le savoir Google, bah en réalité on ne sait rien. C'est de la superficialité. Surtout, on devient de plus en plus bête. Alors c'est en prime un superbe outil de contrôle social. Comme on a tout dans la poche, on devient donc fainéant, on n'apprend plus les choses et surtout on ne creuse plus. On se contente en réalité de la pensée prémâchée. Or la pensée prémâchée, c'est ce dont rêvent toutes les dictatures. C'est là où vous gobez tout sans jamais vous poser de questions. Et on va aussi parler d'un autre aspect, donc elle parle dans son étude, c'est le porno omniprésent. Que ce soit sous sa forme de porno chic, publicitaire, ou même les séries ou des choses comme ça où il y a du porno chic, ou simplement sous sa forme pornographique de base, qui entraîne en fait un désintérêt total pour l'autre. Ça, on l'avait déjà abordé dans la causerie, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait parlé de la pornographie de masse. Donc voilà, elle dit, tout ça crée je reprends le titre qu'elle avait donné, un outil qui dézingue une génération. Voilà. Donc il y a quand même des petits trucs pour s'en sortir. Je vais vous les donner, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Donc comme tout outil, le smartphone doit se dompter. C'est ce qu'elle explique. Personne n'aurait l'idée de garder sur son épaule une bêche toute la journée. Ouais. Bah pourtant, on garde tous notre smartphone dans la poche en permanence.
Très très bon exemple que tu as donné pendant la prépa. Charles Ingalls, c'est le seul individu fictionnel à garder une hache sur l'épaule tout le temps.
C'est ça. Et donc voilà. Et donc pourtant, nous, on accepte de porter nos smartphones tout le temps sur nous, à côté de nous, en permanence, machin et tout. Et nous les consultons en moyenne 78 fois par jour. En moyenne, c'est une moyenne. Chez les adolescents, c'est 147 fois.
Aïe.
Voilà. Ça fait assez beaucoup, beaucoup quand même. Hein. Alors, les recommandations de neuroscientifiques, et notamment les neuroscientifiques de l'école de Paris-Île-de-France, hein, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y en a qui ont réfléchi à la question? Oui, oui, voilà leurs recommandations. Avant 15 ans, pas de smartphone. Quand on a un smartphone, désactiver toutes les notifications. Ne pas utiliser son smartphone plus de 1 heure par jour, tout compris. Appel compris, hein, ça veut dire. Voilà.
Oui, ils sont durs quand même.
Eh oui, oui. Ne pas relier sa vie à des applications et préférer les coups de fil à tout autre mode de communication distant.
Ouais, mais quand t'es asocial, moi j'aime bien quoi.
Ce sont des recommandations. Je dis pas que c'est. Je n'ai pas de jugement. Limiter l'utilisation des réseaux sociaux à 30 minutes par jour, quel que soit le support. C'est-à-dire que ce soit l'ordinateur, le smartphone ou n'importe quoi d'autre. Éteindre son smartphone le plus souvent possible. Alors ils disent éteindre ou le mettre en mode avion ou en mode silencieux. Soyons clairs. Personnellement, je suis pas bon du tout, hein. Par rapport à ces recommandations-là, on va être très clair.
Je crois que personne ne tombe
voilà.
Table, en fait.
Et il ne s'agit pas pour moi ici de dire que je serai au-dessus de la mêlée ou que moi j'aurais... Non, c'est juste, quand on nous alerte, c'est bien de prendre en compte ces alertes-là.
Ah, tu ne fais pas partie d'une élite éclairée.
Non, enfin, à part par la lumière de Canu, mais il y en a plus qu'une sur deux.
Ah, mais comment on va faire?
Mais alors, moi je voulais juste souligner les risques et les dérives, dire qu'en fait cette étude, elle est hyper importante et c'est la première très sérieuse qui a été faite. Et d'ailleurs, elle invite... à ce que ces études soient démultipliées dans le monde, c'est-à-dire qu'on sorte du cadre purement américain. Elle espère que ça va se faire en Europe, au Japon, parce qu'elle dit en fait finalement ça permet comme ça de voir un peu quels sont les impacts. Elle sait par exemple qu'au Japon il y a une utilisation encore plus grande des smartphones, donc quel est l'impact, voilà. Ben, l'impact on peut déjà en voir un, c'est qu'au Japon à 35 ans, 45% des Japonais sont encore vierges, et donc quand on voit que c'est la désexualisation qu'elle souligne, et ben on voit qu'elle est déjà en place au Japon aussi. Voilà, elle invite vraiment à ce qu'on s'étudie, on étudie le smartphone comme étant un outil et qu'on le ramène à ce qu'il doit être, c'est-à-dire un outil. Voilà.
Et pendant la prépa, tu parlais d'un truc qui m'a particulièrement marqué. Alors, je suis désolée, on déborde un peu, mais tu parlais de l'utilisation de moins en moins de mots.
Oui, alors ça, c'est lié en fait à un double phénomène. Le premier phénomène, c'est le phénomène feignant de l'auto-écriture, c'est-à-dire que les smartphones, quand vous écrivez, vous proposent des mots, donc après vous tapez pour faire des phrases, mais en fait, en réalité, ils vous proposent toujours les phrases les plus simples possibles. Donc, vous ne faites plus de phrases complexes et donc vous utilisez moins de mots. Et surtout, c'est lié à une deuxième chose, et c'est lié à ce qu'elle décrit, c'est comme en fait on apprend de moins en moins, c'est quand on apprend qu'on acquiert des mots. Quand on lit des choses un peu compliquées, quand on lit un texte et qu'il y a un mot qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire, et qu'on cherche dans un dictionnaire, ah ben ça veut dire ça, puis que ce mot en fait on l'a en tête après, et il reste au fond de notre mémoire, et quand on le retrouve un jour, bah finalement il est plus un inconnu, ou on voit à peu près ce que ça veut dire. Et comme en fait on utilise un univers extrêmement simplifié, qui est celui en fait de l'informatique et des smartphones, et en fait des réseaux sociaux, où il faut aller vite, parler vite, 140 caractères sur Twitter, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir une pensée courte, hein, comme on dit, 280 maintenant, attention. Je voulais juste rappeler comme ça que le texte le plus court de Platon fait 95 000 signes, voilà, on parle de 140 caractères, vous voyez, avant qu'on atteigne le niveau de Platon, il y a un petit décalage, mais c'était juste voilà pour rappeler ça, c'est-à-dire qu'on s'appauvrit parce qu'on utilise toujours, et surtout on utilise beaucoup d'anglicismes, elle sait ce qu'elle décrit, aux États-Unis ils appellent ça les bad words, en fait c'est des mots en fait qui veulent rien dire et qui deviennent des mots tiroirs où on met tout dedans, et elle dit en fait c'est extrêmement mauvais parce qu'elle dit déjà l'américain est une langue pauvre, et si en plus on l'appauvrit encore, elle se demande où on va aller, et d'ailleurs dans un de ses étudiants elle disait qu'elle commençait à s'inquiéter parce que les gens parlaient comme dans Idiocratie, le fameux film où justement on se moquait d'une société qui devenait bête, et elle se disait mais c'est dingue, elle avait re-regardé le film et s'était rendu compte qu'on écrivait nos SMS comme ils parlent dans le film, c'est-à-dire qu'ils parlent avec très très peu de mots, il faut voir ce film pour comprendre la référence, voilà.
Mais après, pardon, mais après il y a même la notion de je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire, si sur le Japon, en fait, je voulais revenir un petit peu, c'est que, en fait, ça peut aussi être des fuites, en fait, ces outils-là, en fait. Parce que je pense qu'il y a aussi, il peut aussi y avoir des malaises, en fait, de société,
mais
en fait.
Mais
ce qui fait que finalement, les gens s'enfoncent dans notre solitude et dans notre individualisme pour ne surtout pas s'attaquer finalement à ce qui est le problème de nos mots, quoi.
C'est bien que tu le soulignes, parce que je me suis peut-être mal exprimé. Non. Elle ne dit pas que c'est le smartphone et les réseaux sociaux qui sont responsables, parce qu'ils sont le fruit d'une société. Mmh. Elle dit bien, par contre, qu'ils accentuent des mots déjà existants. Oui. C'est pour ça qu'elle peut donner des pourcentages. C'est-à-dire qu'elle voit ce qui se passait avant, et elle voit que ça accentue les problématiques qui étaient déjà les siennes il y a 10-15 ans en arrière. Et c'est là qu'elle s'inquiète, parce qu'elle dit, mais alors, du coup, à la vitesse où ça va, on va arriver où, quoi, en fait?
Et sur les mots aussi, c'est même maintenant ces marques ou ces gens, ce moteur de recherche, je vais pas le reciter, où il y a deux œufs dedans et ça termine par le glou. Et ben, je veux dire, c'est devenu un verbe, c'est devenu un mot.
Googler.
C'est ça, en fait. Alors que, en fait, il s'agit juste de faire une recherche sur Internet, en fait. Et je trouve que c'est intéressant et en même temps, c'est interpellant. Enfin, finalement, là où avant on mettait trois phrases, maintenant on n'en met plus qu'un. Et en plus, c'est un mot qui découle de la marque que tu utilises. C'est assez dingue, quoi.
Alors, je vais parler un peu de ma vie, pardon, mais je regarde j'aime beaucoup les talk shows américains. Mmh. Voilà, c'est un truc qui me plaît, qui m'éclate bien. Donc, je regarde assez régulièrement. Et en fait, dedans, très régulièrement, vous avez la fameuse phrase Googleize it.
Oui.
Cherche-le sur Google. Et c'est assez dingue. C'est-à-dire que, au lieu de vous dire, vous pouvez trouver ça sur Internet, on dit Googleize it. Et en fait, c'est assez fou de se dire, mais voilà, on est dans un cycle où on fait tout très court, très rapide et avec une marque. Mais c'est merveilleux quand même.
J'adore pour un truc qui dit don't be evil et qui prend la totalité d'un marché comme ça, qui se fout totalement des règles. Enfin, bref.
Voilà.
Et oui. Parce qu'en même temps, faut pas qu'on oublie qu'on est dans une société capitaliste, etc. Et que ce qui est dingue quand même, c'est qu'effectivement, là, les marques et les entreprises prennent de plus en plus le devant de tout. Et au-delà du politique, au-delà de la langue, au-delà de tout, en fait, quoi, elles deviennent les principaux,
C'est une forme de monopole de l'asservissement.
Ouais.
Et comme le disait Albert Libertad, dont tu parlais en 1906, plus l'esprit critique recule, plus le capitalisme avance.
Bah, je crois qu'il avait pas tort, le petit gars. Là. Peut-être qu'on se renseigne sur sa vie à lui.
Vous voulez un jingle brave?
Allez.
Jingle brave.
Waouh,
c'était bien.
Grand moyen dans cette causerie. Moi,
je vais commencer.
Oui.
Alors, allez. Je commence. Donc, c'est les brèves. Hein. On a fini sur les smartphones, tout ça. Donc, la semaine prochaine, comme toutes les semaines, il y a une permanence tous les jours pour les travailleurs et travailleuses sans papier à la CGT de 10h à midi à l'UD du Rhône, 215 cours Lafayette, dans le 6e.
Allez, bah, y a une permanence juridique, comme tous les lundis, c'est une permanence juridique d'aide aux sans-papiers et à leurs proches. C'est toujours à la Lutine, qui se trouve toujours au 91 rue Montesquieu, toujours dans le 7e arrondissement, et c'est toujours de 18h30 à 20h tous les lundis.
Samedi 13 janvier 2018, donc samedi prochain, rencontre débat avec Daniel Colson autour de Proudhon et l'anarchie. Un voyage dans l'œuvre de Proudhon, la critique que l'on peut en faire, mais aussi ce que l'on peut en tirer, son lien avec l'anarchie. D'ailleurs, ce sera l'occasion de dire ce qu'est l'anarchie et ce qu'était la pensée de Proudhon, parce que tout ça c'est bien beau, mais il faudrait peut-être tout définir. C'est un moment de présentation et d'échange, ça ils y tiennent. Donc il y aura un moment d'échange à la fin avec Daniel Colson, ça peut être super sympa. Donc c'est à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e. Et c'est à 15h, samedi 13 janvier 2018.
Ça ressemble un peu à de l'éducation populaire en fait.
Oh hein, ouais, c'est terrible.
Des causeries, tout ça.
Limite une causerie populaire quoi.
C'est... Wow.
Et on n'oublie pas que dimanche 14 janvier...
Bah ouais.
On le retrouve, il arrive, il est là.
Il revient.
Il revient, notre astronome amateur de la causerie, Georges.
Effectivement, Georges sera là la semaine prochaine. Et qui il veut nous parler
de l'exovie.
Ah oui, de l'exovie.
C'est-à-dire la vie
ailleurs sur Terre. Ça va dépoter, moi, je vous le dis.
C'est ça.
Et il serait temps que vous revoyiez signe pour pas de suite débarquer avec des fusils.
Non, mais c'est drôle.
Et donc, on peut peut-être, on rappelle juste que si vous voulez vous mettre un petit peu à jour sur les causeries qu'on a fait avec Georges, vous n'hésitez pas à aller sur le blog de la causerie. Il y a un petit onglet émission astronomie, comme ça, vous pouvez voir un petit peu tout ce que Georges nous a déjà amené à découvrir, pas forcément à tout comprendre. Là aussi, il faut pas qu'on se mette la pression. En tout cas, je parle pour moi. On n'est pas forcément obligé de tout comprendre, tous les détails.
Ah, pas tout du premier coup, mais après,
par contre, effectivement, c'est intéressant d'approcher des choses qui ne sont pas forcément accessibles à toutes et tous, selon nos parcours individuels.
Mais on les rend les plus accessibles possibles.
Mais effectivement, Georges le fait très bien.
On n'est pas obligé de comprendre pour apprécier, mais quand on apprécie, on a plus de chances de comprendre.
Oh, c'est beau.
C'est très beau.
Et dire aussi que le 21, donc le dimanche d'après, il y aura aussi une émission spéciale, mais on vous redira ce que c'est la semaine prochaine.
Arrête. Bah, on reçoit une asso.
Voilà.
Pour un livre et des témoignages.
Exactement.
Voilà.
On va se quitter.
Oui.
Alors moi, je voulais juste vous dire que là, on va se quitter avec Vincent Brix. Voilà. Alors je vais pas faire le mec qui je l'ai découvert par là. Non, c'est un de mes contacts Facebook qui est bien sympa. Vous voyez comme quoi les réseaux sociaux c'est des fois pas mal. Non, c'était voilà. Mais et donc du coup
et on est obligé de dire la marque du réseau social.
Non, du réseau commercial, j'aime mieux d'ailleurs. Je sais pas qui dit ça, je crois que petit coucou à Delphine, je crois que c'est elle qui dit ça souvent. Et ceci dit voilà, et il m'a dit ouais, t'as une émission avec des copains, ce serait bien. Bah je dis oui, OK, ton sous-titre il est pas mal. Donc vous voyez, vous pouvez le faire, mais sinon vous pouvez l'envoyer à lacauseriecanu@gmail.com, c'est encore mieux. Si vous avez des titres que vous voulez qu'on passe, comme ça on voilà. Et Vincent Brix, il a besoin d'un coup de main pour produire son premier EP. Donc voilà, si vous voulez l'aider, ça se passe sur Kiss Kiss Bank Bank. Voilà, deux marques en moins de deux minutes. Donc voilà, Vincent Brix, BRICKS.
Et non, bien sûr.
Et Brix, c'est pas une marque.
Ah non, lui, c'est son nom.
Ok, d'accord.
Ah, mais sérieux. Et donc, son titre, c'est Stockholm.
Voilà, je tiens à préciser à nos auditeurs, non, on n'est pas des suppôts du capital, non.
Mais non, mais voilà.
On est comme vous et nous, et on ouais,
ne vit pas en dehors de la société non plus. Donc,
bah non, on est dedans. Hein.
Je vous laisse donc avec Stockholm de Vincent Brix. Des bisous à toutes et à tous.
Bisous, bonne soirée,
semaine.
Bonne nuit, bonne semaine. À la semaine prochaine.
À bientôt. Ouais. Tomorrow I'm
j'écoute.